RFI.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Comme en chaque début de semaine, nous voilà partis pour 5 jours d'actualité dans le monde du football. C'est une semaine de Ligue des Champions, mais pour l'instant, nous nous consacrerons plutôt au championnat. Au championnat et aussi, nous allons commencer par l'Afrique avec ce sacre continental pour les Aiglons. Ils ont hier remporté pour la première fois la CAN des moins de 20 ans à Niamey à l'issue d'une finale où le dénouement fut long à venir au tir au but. Victoire malienne au détriment des Lionceaux de la Teranga. La malédiction pour le Sénégal qui échouait pour la 3e fois en finale de cette compétition. La victoire des Parisiens sur les Verts, logique au bout d'un match maîtrisé pour le PSG qui possède une arme fatale dans ses rangs. Un buteur magique, génial, qui bouscule tous les records. Kylian Mbappé, meilleur buteur français d'un championnat hexagonal depuis la dernière guerre, depuis 1945. Loin derrière l'équipe de ce Iti, eh bien il y a l'OM. L'OM qui remonte doucement mais sûrement au classement. Les Marseillais 4e qui avancent dans le sillon de leur super Mario. Une nouvelle saison a-t-elle commencé sur la Canebière dans une France où c'est déjà le printemps en cette fin février? C'est la question qu'on se posera dans Radio Foot. Et puis nous évoquerons un championnat sous l'œil avisé d'un entraîneur. Au chômage, José Mourinho observe la Ligue 1 de très près. Il était à Lille pour un jour y travailler. Eh bien, le coach viré de ses derniers postes fait peut-être rêver dans l'Hexagone. Nous en parlerons. Et nous en parlerons avec un revenant dans cette équipe. Il était absent depuis 9 semaines.
Oh
exactement,
là
c'est
là
ça
là là, absolument.
Hervé Penaud, bonjour.
Alors ça, c'est vraiment Merci. Un plaisir de vous retrouver. Autant de chaleur,
vous nous
de
avez écouté, j'espère, pendant que vous étiez mobilisé.
Obligatoirement.
Vous n'avez rien perdu de Radio Foot.
Je n'ai rien perdu et bonjour à tous les auditeurs.
Eh bien, en tout cas, Hervé, on est très heureux de vous retrouver, vous, notre confrère de l'équipe, pour parler de l'OM qui remonte comme une petite bête qui monte. Marc Libra, bien sûr, bonjour Marc.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Patrick Juillard du site Foot Africa 365 qui nous parle lui aussi de l'Afrique.
Entre autres.
Et des jeunes.
Bonjour Annie,
bonjour
à tous.
Juillard. Enfin, Christophe Jousset, bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Le Sénégal est parti. Et c'est un le Mali remporte la Coupe d'Afrique en Niger.
Troisième finale perdue d'affilée pour le Sénégal.
Troisième finale d'affilée perdue pour le Sénégal, absolument.
Oui.
Je suis très contente, c'est le Mali quoi. En tant que Malien, on va aller accueillir les footballeurs.
On est très content que le Mali a gagné. On est très content pour les joueurs, pour le peuple aussi.
Vraiment, moi, j'ai même pas les mots à dire. C'est la première fois que nos équipes font ça. On veut qu'ils continuent comme ça. C'est important, c'est très important dans un pays qui est en crise, que les jeunes gagnent comme ça. Vraiment, ça nous donne un peu de morale.
Félicitations aux jeunes. Ils ont bien mouillé les maillots. Très fiers d'eux.
Et voilà les Aiglons, champions d'Afrique, donc des moins de 20 ans, bientôt fêtés dans les rues de Bamako. Lorsqu'ils rentreront au pays, l'équipe des jeunes Maliens s'est imposée en finale à l'issue d'une série de tirs au but qui a tourné à leur avantage 3-2 après donc le score nul de la rencontre dans le temps réglementaire et même au bout des prolongations, soit 1-1. Ils ont décroché donc ces jeunes Aiglons, eh bien, pour le Mali, un trophée qu'aucun n'avait conquis avant eux. Et hier à Niamey, eh bien, les joueurs sentaient bien ce que représentait cette coupe pour leur pays, à Niamey, puisque la compétition avait lieu au Niger. Écoutons le défenseur des Aiglons, Sambou Sissoko.
Ce trophée, c'est une immense joie pour nous, pour le football malien. C'est une immense joie pour nous. Je ne sais même pas comment m'exprimer à ce sujet, vraiment. Ça a été très, très dur parce que les deux équipes se connaissaient depuis longtemps. On a mis une tactique en place, c'est-à-dire de la laisser jouer. Et on va essayer de défendre pour essayer d'attaquer en contre-attaque. Donc je pense que ça a été la base du match. On va bien fêter ça d'abord et après on va commencer la préparation de la Coupe du Monde.
Alors cette finale remportée donc au tir au but, je me souviens Patrick Juillard que vous aviez prédit ça jeudi dernier quand on avait l'affiche de la finale, vous aviez dit ça ira jusqu'au tir au but après le temps réglementaire. Pourquoi aviez-vous dit ça?
Bah parce que d'après les demi-finales déjà avaient été très accrochées, les équipes étaient un petit peu paralysées par l'enjeu déjà en demi-finale, donc je pensais bien que entre ces deux équipes qui étaient toutes les deux en quête d'un premier sacre dans cette catégorie, oui. Ça serait très serré, ce serait tendu et le match a été quand même assez âpre, assez haché, assez disputé, beaucoup de duels, beaucoup d'actions interrompues, beaucoup de récupérations vraiment rageuses, beaucoup de un peu plus de destruction que de construction finalement dans le jeu. Mais à ce jeu-là, justement, je trouve que le Mali n'a absolument pas volé sa victoire et a été plus efficace à la fois pendant le match et plus efficace bien sûr dans l'exercice des tirs au but qui est jamais évident après 120 minutes de jeu. Il faut arriver à se reconcentrer sur un geste qui peut paraître simple mais qui est quand même un geste technique comme ça, et donc on peut dire chapeau au Mali qui vraiment n'a pas volé ce sacre.
Hervé.
Bah tout à fait, je suis complètement d'accord, et la même analyse, je pense que le Mali méritait aussi cette victoire. Ce qui est étonnant, c'est tout le monde pensait que le Sénégal avait quand même l'effectif le plus fort de cette Coupe d'Afrique. Il l'avait déjà prouvé contre le Mali en phase de poule, hein, puisqu'il s'était déjà imposé. Mais on a vu un Mali qui a été conquérant d'entrée. Alors à part les premières minutes qu'on peut peut-être mettre à l'avantage des Sénégalais, mais ensuite il y a quand même eu une domination malienne. Et je pense que les attaquants maliens ont eu 2-3 occasions assez nettes de marquer un deuxième but. Simplement, il manquait un peu de justesse dans la dernière passe. C'était avant-dernière passe sur un terrain, attention, compliqué, hein, parce que jouer dessus, c'était vraiment pas évident.
Il y a plus du sable que de la pelouse. Ouais,
Donc ça aussi, ça peut niveler les valeurs. Et puis surtout, quand vous êtes technique, de temps en temps, c'est compliqué de jouer dans de telles conditions. Mais et les Sénégalais sont réveillés un peu tard. Alors, ils sont réveillés, on s'est même dit à un moment après l'égalisation, bah tiens, finalement, ils ont peut-être fait le plus dur, ils vont pouvoir reprendre l'avantage. Et puis finalement, le Mali a tenu avec des joueurs qui allient assez bien qualité physique, parce qu'il y a quand même des mecs très très costauds. Puis à côté de ça, des joueurs aussi très techniques, qui sont capables de sortir de pressing, sont capables de trouver des ouvertures. Et finalement, bah, sur l'ensemble, je pense que la meilleure équipe finalement a gagné, puisqu'en plus, on va ajouter la notion mentale de l'événement.
Ah
Et quand vous gagnez comme ça au tir au but, c'est qu'à un moment mentalement, vous êtes un peu plus fort qu'une équipe qui rate 3 tirs au but.
Incroyable.
Dont frapper
le premier pour démarrer la série, le premier déjà raté, donc déjà, c'est pas évident.
Le premier est raté et même pas cadré, puisqu'il touche le poteau, ce qui n'est pas souvent.
Enfin, ensuite, le troisième est carrément dans les nuages.
Et puis, voilà. C'est Diang, c'est plus qui avait fait une bonne entrée, hein. C'est un jeune joueur de Diambars que j'avais rencontré d'ailleurs à Diambars, c'était drôle quand je l'ai vu, je dis ah bah tiens, on va voir un peu ce qui va donner, et malheureusement il frappe dans les nuages, il y a pas d'autre.
Mais l'écart qu'on a vu entre les deux équipes par rapport aux phases de poule, c'est que les Maliens ont été très bons du début jusqu'à la fin. Alors oui, c'est haché parce que c'est le contexte qui veut, c'est le terrain qui veut ça, mais après sur le match, il y a rien à dire. Les Maliens, il y a quoi, il y a deux occasions. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de jeu à l'heure de jeu côté Sénégal, on fait rentrer deux jeunes joueurs, ça change, ça modifie un petit peu la donne,
mais autrement le Mali, ils sont sur le but.
Ils marquent exactement.
Les deux sont sur le but.
Autrement, ils ont été supérieurs du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est bien pour les Maliens. Et si vraiment le Sénégal s'impose au penalty, ça aurait été un hold-up. Au vu du match, c'est un hold-up.
Alors hold-up, peut-être le terme aurait été un peu fort
sur l'ensemble du match.
Mais je suis d'accord qu'il méritait le.
Il y a tellement d'occasions.
Oui, c'est vrai qu'au nombre d'occasions, les Maliens sont largement au-dessus. Après, les Sénégalais ont finalement réussi à égaliser à un quart d'heure de la fin, et ils ont même l'occasion de. De l'emporter. Mais moi, j'ai trouvé que les Maliens étaient très présents physiquement, notamment au milieu de terrain, et que les Sénégalais, en fait, ont jamais eu vraiment le temps de s'organiser, d'organiser le jeu. C'est vrai qu'on les voyait gros comme une maison, comme souvent quand une équipe comme ça enfile les victoires et pour arriver jusqu'en finale. Mais bon, comme on dit, hein, la finale, c'est un match totalement différent.
Et puis finalement, les deux équipes s'étaient affrontées au premier tour. Le Sénégal l'avait nettement emporté. Il n'y avait pas eu vraiment de discussion ce jour-là sur la victoire sénégalaise. Donc finalement, c'est bien ce qu'avait dit le ironie
Youssouf
du sort.
Dabo.
Youssouf Dabo, le coach sénégalais, avant le match, il avait dit ce sera tout autre chose. Ce match est une finale, ça n'a rien à voir. Et il s'est retourné contre son équipe.
Youssouf Dabo avait dit aussi, je crois que le Mali ira très loin dans cette compétition, après le Mali-Sénégal du match d'ouverture.
Il faut dire, le Mali, c'était aussi une équipe qu'on attendait, parce que c'est quand même une équipe qui a gagné les CAN de moins de 17 ans, dernière CAN de moins de 17
ans.
Deux fois, en 2015 et 2017.
Voilà.
Donc on savait qu'il y avait du potentiel. Et de fait, quand vous êtes en moins de 17 ans, bah après vous passez en moins de 20 ans.
Et d'ailleurs,
c'est logique. En général, on passe pas en moins de 13. Donc on savait aussi qu'il y avait quand même un vrai potentiel.
Sauf dans peut-être au Burundi, non, je rigole.
Oui. Après, c'est vrai que quand on regarde la liste des Maliens, on en retrouve une dizaine à peu près.
Il y en a huit qui ont gagné la dernière CAN des moins de 17.
Ouais, qui était d'aventure, voilà, il y a deux ans. Maintenant, le Sénégal restait sur deux finales chez les moins de 20 ans, qui étaient perdus. Donc ça a aussi participé peut-être à ce contexte.
Vous parlez de malédiction. C'est plus finalement une mauvaise préparation des grands matchs.
Hein, ça. C'est vrai que le fait d'accumuler trois défaites consécutives, on pense à une sorte, en tout cas, de malédiction dans ce sens-là, pas forcément sur le jeu. Justement, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette équipe, mais écoutons-le, le sélectionneur des Lionceaux, qui a tenté de répondre finalement aux questions, qui a tenté de répondre aux questions qui étaient finalement autour de est-ce que son équipe était soit inférieure, soit elle avait mal préparé cette finale. Youssouf Dabo au micro de notre correspondant au Niger, Ousmane Keïta.
On savait que c'est une finale, c'est jamais facile. Il fallait être costaud dans la tête. Comme je l'ai dit aux garçons, c'était la première fois durant ce tournoi qu'on a été mené au score. Beaucoup de gens se posaient cette question. Comment allait réagir le Sénégal le jour où ils seront menés au score? Tout le monde l'a vu. On a montré beaucoup de personnalité et de caractère. C'est ce que je demande à mes joueurs. Je suis content d'eux, je suis fier d'eux. Ils ont bien représenté le Sénégal. Et durant tout le tournoi, je pense que mon équipe a montré beaucoup de choses positives. Après troisième finale perdue, les deux passés, j'étais pas là.
Alors, il n'était pas là, évidemment, c'est pas lui qui perd les trois consécutives, mais Patrick Juillard, le Sénégal était favori parce que, justement, il y avait eu cette victoire au premier match qui était loin d'être une finale, mais sur le score de 2-0. Ensuite, ils ont fait un très beau parcours. Si je me trompe pas, c'était 10 buts et pour un encaissé.
Absolument.
Seulement. Donc, ils avaient remporté des victoires en 5 matchs et on les voyait peut-être aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui leur a manqué?
C'est
psychologique.
Pour moi, si on prend cet effectif, c'est sans doute le meilleur de cette CAN des moins de 20 ans, avec peut-être le Nigeria qu'on oublie et qui avait aussi une belle équipe.
D'ailleurs, pour se consoler, ils ont eu trois trophées. Hein, celui du meilleur joueur, défenseur, Moussa Ndiaye, de meilleur buteur, Amadou Diagne Ndiaye, et puis celui du fair
play. Meilleur joueur aussi.
Voilà, absolument. Simplement, ils ont fait leur plus mauvais match au plus mauvais moment. Il n'y a pas pour moi une leçon à tirer particulièrement sur le plan tactique. Je pense qu'ils ont été surpris par l'agressivité des Maliens qui ont ratissé un nombre de ballons énorme au milieu de terrain. Ils se sont clairement fait marcher dessus au milieu de terrain. Donc ça, c'est l'équipe s'est retrouvée parfois et souvent même coupée en deux, obligée souvent d'allonger et donc de perdre en précision. Et puis, je pense que mentalement, il a manqué quelque chose. On l'a vu lors des tirs au but. Je pense que ces joueurs-là sont tous des bons footballeurs capables de mieux faire que ça sur un exercice comme les tirs au but. Donc, c'est une question d'abord des matchs décisifs. Il y a peut-être, alors évidemment, pour un joueur de moins de 20 ans, on va dire, il y a un manque d'expérience, mais les Maliens n'en avaient pas plus. C'est un problème de mental, de concentration, de mobilisation des forces au moment M, et voilà, il manque un petit quelque chose.
Pas de fatalité, mais peut-on penser à un facteur psychologique, Hervé, du genre, même si c'est pas eux, mais deux générations, les deux finales antérieures perdues, et du coup, ça pèse plus sur les épaules?
Ah oui, certainement. Le facteur psychologique, surtout quand vous arrivez au tir au but, et si on ne cesse de vous le répéter, c'est qu'il y a un moment, qu'on le veuille ou non, certains joueurs sont pas du tout impactés, et puis d'autres y croient, se disent mais finalement c'est peut-être pas pour nous, effectivement c'est pas fait pour nous les séances de tir au but, et puis pas que les séances de tir au but, les finales en général, parce qu'il faut se rendre compte que le football sénégalais qui a enfanté beaucoup de très très grands joueurs du continent n'a jamais rien gagné
sauf en beach soccer.
Je parlais du football sur des terrains. J'allais dire terrain en herbe, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Niamey, disons des terrains en herbe, sable.
Ils ont gagné aussi le tournoi des Jeux africains, le dernier. Donc, mais c'est vrai que non, en compétition CAF, que ce soit
club et au...
voilà, ils sont même chez les clubs comme en sélection. Oui.
Donc c'est ça. Parlons des grosses compétitions qui sont organisées par la CAF. Il y a rien, pas une victoire. Donc je peux pas imaginer qu'à un moment, ça n'ait pas de l'impact sur certains. Puisqu'on vous le répète tout le temps, chaque fois qu'ils vont faire une interview, ils disent « Ah, c'est une finale, mais dites donc, vous savez, vous n'avez jamais rien gagné. » Et ben, au moment où vous allez pour votre tir au but, là, à un moment, vous vous dites « Oh, alors celui, il y a des gens, qui ça ne touche absolument pas, et puis il y a des gens qui se disent « Oh putain, oh la vache, c'est moi qui dois... Oh, » Alors qu'on a toujours tout raté, et puis à un moment, vous perdez un peu de vos moyens, et puis ça se joue un peu, une séance de tir au but.
Ouais, je lisais une dépêche ce week-end de l'agence de presse sénégalaise qui parlait avant cette finale d'une véritable demande sociale. Donc c'est vrai que en termes de pression, ça se pose un peu là.
En plus, la malchance, c'est que sur un des tirs au but malien, Dialine Ndiaye est tout proche de sortir le ballon, il le touche, il part du bon côté et finalement la balle rentre quand même dans le but. Donc on sent vraiment là qu'il y a encore ce petit quelque chose qui manque, mais il faut souligner quand même la qualité des Maliens, de certains joueurs.
Absolument.
Le numéro 14, Sissoko au milieu, qui a dans l'ombre a ratissé énormément de ballons. Même l'attaquant n'a pas été en réussite, mais il a été hyper disponible. El Bilal Touré. Oui. Qui est un joueur d'Afrique Foot Elite, un centre de formation qui a été créé récemment.
Et c'est Koko Ita, on connaît le niveau. Déjà, c'est déjà un joueur de très bon niveau, qui joue déjà en Europe.
Monaco n'était pas là.
Non.
Donc, c'était peut-être lui la pépite, le vrai meilleur joueur, et il n'était pas là. Donc, c'est dire quand même la qualité de la formation malienne.
Alors, justement, Christophe, on s'est demandé d'où viennent un peu ces joueurs et comment eux qui ont déjà gagné par deux fois la CAN des moins de 17 ans, finalement, où se forment-ils? Comment le sélectionneur et la fédération, d'une façon générale, repère ses meilleurs joueurs?
Oui, parce qu'en fait, la situation du foot malien aujourd'hui, au Mali, elle n'est pas florissante. Elle est même très, très délicate. Vous savez qu'il y a la fédération n'est plus fonctionnelle, qu'il y a...
C'est sous tutelle de la FIFA.
Ouais. Un comité de normalisation, le fameux CONOR, installé par la FIFA il y a maintenant une année à peu près. Et donc, il n'y a pas vraiment de championnat du Mali qui soit depuis 2-3 ans, qui soit organisé, quelles que soient les catégories d'âge.
Ouais, redémarrer ce mois-ci, mais finalement il n'y a pas eu d'accord entre les différents clubs et la enfin le CONOR, et donc finalement ça a été reporté.
Et donc on se demande comment les Maliens peuvent aller chercher des succès comme ça, gagner les deux dernières CAN des moins de 17 ans, et aussi être en demi-finale de la Coupe du Monde, des deux dernières Coupes du Monde de la catégorie, et maintenant gagner pour la première fois une CAN chez les moins de 20 ans. Bref, il y a quand même un paradoxe.
Alors surtout que quand il gagne la dernière CAN des moins de 17 ans, il y avait plus de fédération. Là, c'était au moment même où ça avait été un peu l'explosion interne du football malien. On savait même pas s'ils allaient participer. Ils avaient eu une ou deux semaines.
Il y avait eu des histoires de maillots. Ils n'avaient pas les maillots. Enfin, c'était
absolument incroyable, apocalyptique. Et finalement, ils sont devenus bons quasiment sur place en jouant les uns avec les autres.
C'est le talent, tout simplement. Il y a des joueurs formidables dans ce pays.
Et c'est le boulot des centres de formation. En fait, il y a des centres de formation qui tournent sur des fonds privés. Il y en a beaucoup dans ces centres de formation. Alors vous avez cité Afrique Foot Elite, mais on peut aussi citer Patrick Étoile du Mandé et Yélène Olympique. Il y a plusieurs joueurs de ces centres de formation là qui apparaissent dans la liste des Maliens qui ont été sélectionnés. Et donc même s'il n'y a pas vraiment de compétition, il y a des matchs amicaux qui sont organisés, des tournois interclubs, la Ligue de Bamako aussi est assez active pour organiser des choses. Alors quand des tournois se pointent à l'horizon, on accélère un petit peu les préparatifs, mais vous voyez bien que tout ça n'est pas régulier sur toute la durée d'une saison. Et malgré tout, grâce à ce travail des centres de formation privés, dont les meilleurs éléments vont être retenus en équipe nationale, plus ceux qui sont partis déjà à l'étranger, notamment après la dernière CAN des moins de 17 ans.
Et puis, il faut souligner le travail de l'Académie Jean-Marc Guy de Bamako, qui a envoyé déjà de très nombreux joueurs en Europe. On peut citer par exemple Amadou Aïdara, qui joue au Red Bull Salzbourg.
Il y en avait trois du Red Bull Salzbourg dans cette liste.
Et il y en a d'autres.
Alors, il y a Jérôme,
il y a Bissouma.
Deux en Belgique, Royal Antwerp et au Standard de Liège. Il y en a un qui joue aussi au CSKA Moscou. Bon, ça, ce sont des joueurs qui ont éclos, qui ont gagné la CAN des moins de 17 ans il y a deux ans et qui ont été ensuite, sont partis s'améliorer encore.
Et avant eux, il y a eu Amari Traoré qui joue à Rennes aujourd'hui, qui est un très bon latéral droit.
Oui, aussi,
et il y
fait
en a d'autres.
Aussi de l'Académie.
Alors, on a joint Annie tout à l'heure. Il était encore à l'hôtel à Niamey d'ailleurs, hein, parce que
vous n'étiez pas encore arrivé à Bamako, loin de là.
La route est encore longue avant la fête à Bamako. On a joint le sélectionneur Mamoutou Kané, qu'on surnomme Mourlet, et qui était entre ses valises, hein, puisque il était sur le point de partir à l'aéroport.
Il n'avait pas rangé le portable, ça va.
Il nous a expliqué comment il a préparé, comment il a pu tant bien que mal préparer cette phase finale de Cannes dans les conditions qu'on vient de décrire, alors qu'il n'y a pas de championnat national au Mali actuellement.
Comme j'avais l'équipe depuis le mois d'avril, j'ai gardé le même groupe. Du mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 3 changements seulement. 3 nouveaux qui sont rentrés. Et à chaque préparation, on a eu la chance de tomber sur des tournois également. Les tournois une fois B et A. On a participé à ce tournoi et nous sommes sortis tout en 3e. Là, cette préparation, on l'avait fait comme chaque semaine, on fait 2 matchs. Chaque semaine, on fait 2 matchs. Pour qu'on puisse avoir les jambes.
En fait, au Mali, ces joueurs-là que vous avez en sélection ont très peu l'occasion de jouer en compétition.
Bien sûr, ils n'avaient pas de compétition. C'est moi qui les prenais. Sinon, il y a 8 autres qui jouaient en Europe, qui sont en Europe. Sinon, tous les autres joueurs, c'était des locaux. Donc, je les gardais en moi. Chaque semaine, on s'entraînait une fois, deux fois. Et quand la compétition arrive, je les regroupe et on fait un bon programme normal pour les matchs amicaux.
Donc c'est vraiment loin d'être l'idéal pour un sélectionneur.
Oui, c'est vraiment, c'est pas du bricolage quand même. Ça a été, on a fait un bon programme planning et ce planning a été respecté par les autorités. Je pense que c'est ce qui nous a fortifié. Bien vrai qu'également on n'a pas eu de matchs internationaux parce qu'on a joué, on a fait toute cette préparation à Bamako et joué contre une équipe de première division et une équipe de deuxième division par semaine. Donc c'est ce qui a valu qu'on est arrivé ici. Là, par rapport au premier match et au dernier match, nous avons vu une équipe du Mali qui a monté en puissance, petit à petit, gagnant des matchs, match par match. Ça a été très difficile, très compliqué. Avec cette crise actuelle, vraiment, je profite de votre micro pour lancer un appel aux autorités maliennes, à ses responsables sportifs, de s'asseoir, de communiquer, de discuter, vraiment de mettre cette crise derrière nous pour que les enfants puissent vraiment s'épanouir en football.
Voilà, il faudrait que la crise pour le plus grand profit du foot malien puisse s'arrêter. Mamoutou Kané, qui est particulièrement fier parce que figurez-vous qu'il était gardien remplaçant de l'équipe nationale du Mali. Alors à l'époque on disait les juniors, en 1989 à la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, et que 30 ans plus tard, en tant que sélectionneur, il va emmener de nouveau les aiglons à la prochaine Coupe du Monde. Là, ce sera en Pologne à la fin du mois de mai.
Et il avait perdu la finale, lui.
Oui.
Pour le coup.
Du 23 mai au 15 juin, en Pologne, les équipes de moins de 20 ans ont rendez-vous. Et les 4 représentants africains seront donc Mali et Sénégal, les 2 finalistes. Et puis l'Afrique du Sud qui a terminé 3e et le Nigeria 4e.
Et ce sera les 10 ans de la seule victoire africaine à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'était le Ghana fin 2009, avec notamment les frères Ayou. Donc peut-être ça peut donner des idées à ces équipes-là qui représenteront le continent en Pologne.
Juste une petite date à rajouter, parce que c'est intéressant, pour ces 4 équipes qu'on vient de citer, les 4 africaines, le tirage au sort, c'est le 24 février pour la Coupe du Monde.
Eh bien voilà, vous savez tout sur les moins de 20 ans, et sachez que dans notre studio aujourd'hui, il y a un Malien attiré par l'odeur de la victoire, Moussa Niakate de Bamako, qui est donc venu nous rendre visite et qui a écouté de très près les résultats et la victoire de cette équipe malienne.
Et on en profite pour saluer Mohamed Traoré, avec qui j'ai eu une petite discussion sur l'état du foot malien tout à l'heure aussi.
Mohamed Traoré,
souvenez-vous,
Amadou Paté Diallo et tous nos amis qui nous écoutent et qui nous suivent du côté de Bamako. On va passer bien à la Ligue 1, hein, parce qu'il y avait des matchs aussi dans l'Hexagone au cours du week-end.
Et attention, avec un ballon pour Di Maria, Di Maria pour Daniel Alves. Daniel Alves, petit ballon pour Kylian Mbappé. Oh, le but! Oh, le but, il est magnifique! Goal! Pour le Paris Saint-Germain! Daniel Alves, la passe est somptueuse et la reprise de Kylian Mbappé dans la course. Oh, bam, bam, bam. Ça fait très très mal à la tête des Stéphanois dans cette nuit noire. En tout cas, Stéphanoise dans cette fin de partie qui était un petit peu, voilà, sombre. On se disait, qu'est-ce qui va se passer? Le PSG vient de faire éclater la lumière au grand jour. C'est magnifique. Et de la part de Dani Alves, ouais. Ce ballon dans le dos de la défense. Et alors l'accélération et la reprise qui va avec de Kylian Mbappé. Merci les petits, bonne nuit. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Waouh.
Il y met le cœur et parfois ça nous amuse de vous le faire écouter parce que en Afrique c'est difficile de capter France Bleu Paris, mais c'est notre camarade évidemment Bruno Salomon qui marque à la culotte tous ses joueurs du Paris Saint-Germain et qui les suit partout. Et d'ailleurs il est dans la galère comme nos camarades de cette liaison de TGV entre Paris et Lyon aujourd'hui, où personne n'arrive à revenir de Lyon et personne n'arrive à y aller. Il y a un caténaire qui a flanché, on va dire, et du coup tout le monde se retrouve sur des voies de déroutement. En tout cas, vous l'avez entendu, le but de Kylian Mbappé, il plane, Kylian, il plane sur la Ligue 1 et sur la planète football. À chaque match, désormais, on attend de sa part un geste génial, un but génial, et en plus, qui le fait. Hier soir, c'était donc dans le chaudron de Geoffroy Guichard, à Saint-Étienne, pas très loin de Lyon. C'est lui qui a débloqué la rencontre, qui s'est terminée sur un 1-0. Admirable, Kylian Mbappé, mais en tout cas, écoutez ses camarades de jeu, ou même l'entraîneur adverse, parler de ce joueur incroyable.
Un jeu très intelligent, il y a beaucoup d'expérience déjà avec 20 ans. C'est pas normal de avoir un joueur comme ça, Jean, qui prend la pression facile. Kylian, il est un joueur très, très important pour nous. Il y a beaucoup de pression sur lui, mais je crois que Kylian, il n'a pas 20 ans. Ça sont 28, 29, parce qu'il gère très bien cette situation. Et c'est bien pour l'équipe, c'est bien qu'il marque. Nous sommes contents pour toutes les prestations qu'il vient à faire.
Un joueur comme ça, il faut pas avoir des limites. En plus, il a une bonne tête, il sait très bien gérer ses émotions. Après, quand tu viens d'un match comme Manchester, venir ici et faire un bon match et marquer, c'est la meilleure réponse qu'il donne, c'est toujours sur le terrain.
On a perdu sur un but venu d'ailleurs, d'un joueur qui, à 19 ans, deviendra bientôt le meilleur joueur du monde. La maîtrise qu'il a dans le jeu, les analyses qu'il a après le match, la lucidité qu'il a, il me bluffe. C'est pour ça que je dis que ça va devenir le meilleur joueur du monde dans 2-3 ans.
Alors peut-être l'est-il déjà d'ailleurs et on le sait pas encore. Marc Libra, comment vous définiriez ce joueur? On a entendu Thiago Silva, on a entendu Marquinhos, ils disent un joueur comme ça. C'est incroyable d'avoir un joueur comme ça. Ils arrivent pas à trouver d'autres mots. Bon, ils sont étrangers en plus, mais comment vous le définiriez-vous, Kylian Mbappé?
Stratosphérique. On parlait tout à l'heure des pénaltys. Il est capable de tirer des pénaltys en Coupe du Monde. Ça lui passe dessus. Il y a pas de problème. Ses débuts à presque 17 ans face à la Juventus, face à City, on s'inquiétait pour lui. La pression, il y a pas de pression. Il marque des buts. Il marque des buts à Buffon à l'époque. Il ne cesse de continuer, d'évoluer. C'est jusqu'à où, à quel moment il va s'arrêter? Je pense que pour l'instant, allez, il a peut-être un défaut, c'est son jeu de tête, c'est-à-dire peut-être jouer en sauter, déviation devant le but, mais après tout le reste, mais il a, c'est-à-dire que
vous auriez envie de lui apprendre le jeu
non,
de tête.
Non, mais là, ça vient. Vous inquiétez pas avec lui, je pense que ça viendra tout seul. Mais si c'est que ça aujourd'hui, son seul défaut.
Bon, Messi peut jouer son gros jeu de tête.
Ouais, voilà. Non, mais après Messi, tu marques un but en Ligue des Champions, magnifique aussi. Donc aujourd'hui, il est fascinant. C'est un gamin qui est fascinant, qui est intelligent, qui sait tout faire. Et après, il faut pas parler d'âge avec lui, parce que l'âge aujourd'hui, il en a rien à faire.
Déjà, lui, il aimait pas, hein, quand on
le disait. Non, mais voilà, lui, il a toujours dit, mais aujourd'hui, ça lui passe dessus comme si, c'était normal. Et maintenant, est-ce que Paris n'est pas trop petit pour lui? C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment au-dessus.
En tout cas, on peut pas parler d'âge pour lui, mais quand même, on peut parler de statistiques. Jamais depuis 1945, un joueur français n'avait marqué 19 buts en 18 matchs dans le championnat de France. Et son palmarès, hein, il a 20 ans, il est déjà deux fois champion de France, ça fait 2 ans qu'il est dans le top 7 du Ballon d'Or. Il est le deuxième plus jeune footballeur à marquer en finale de Coupe du Monde. Il est le deuxième plus cher de l'histoire aussi. Il a marqué 10 buts jusqu'en décembre 2017, c'est-à-dire en Ligue 1, il avait à peine 18 ans. Et pour ce qui est des buts en Ligue des Champions, eh bien, 14 buts, c'est autant que Zinedine Zidane, mais à son âge, c'est-à-dire à 20 ans, Messi et Cristiano Ronaldo n'avaient pas inscrit plus de 2 buts. 2 buts pour Messi et c'était, je crois, 0 pour Cristiano
Ronaldo.
Mais Annie,
ça peut être le plus gros transfert de tous les temps.
Dans pas longtemps. Le prochain ça...
Ah, ça peut être le plus gros
déjà,
transfert.
Déjà, c'était pas mal, 180
de...
millions.
Ah, mais là, enfin, là, on va l'exploser. Là. Enfin, non, enfin, je sais pas si c'est au mois de juin prochain ou dans un an, mais ils vont l'exploser.
Mais qui peut payer ça? Ouais, je suis pas certain que Paris Saint-Germain le laisse partir, de toute façon. Parce que là, on est dans des sphères.
Si le joueur veut partir, tu sais comment ça fonctionne.
Oui, mais Paris est un des rares clubs. Il y a peu de clubs au monde, mais qui sont susceptibles de garder des joueurs. Contre leur gré, entre guillemets. Ils l'ont montré avec Rabiot, qui ne joue plus.
Alors et qui ne restera pas.
Et, non, il ne restera pas, puisqu'il est en fin de contrat, mais de toute façon. Mais à un moment, ils ont laissé passer le poids du club au-dessus du joueur, ce que je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'esprit, hein, parce qu'on a tellement critiqué les dirigeants pour laisser faire à peu près tout ce qu'ils voulaient à leurs joueurs. Ce qui veut dire qu'à un moment, vous avez quand même du poids en face, parce qu'il y a, il y a le Qatar, tout simplement. Et puis, vous avez
du poids ou du cash?
Oui, aussi. Du cash. Ah bah, le Qatar, parce qu'il y a du cash. Du et vous allez financier. Construire, vous allez construire une équipe autour de lui. Ça va être la tête de gondole. Alors, je dis pas qu'il partira pas dans quelques années, parce que ça, vous avez aussi besoin parfois d'un peu de liberté, ça puis ça vous en discutez avec le club. Mais aujourd'hui, en tout cas, il est sûr que sur les prochaines années, c'est la tête de gondole du Paris Saint-Germain, avec Neymar d'abord. Parce que n'oublions pas Neymar. Parce que j'ai l'impression qu'on l'a zappé comme ça.
Bah, on l'a zappé parce que son cinquième métatarse, c'est vrai, j'avais zappé.
Non, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires expliquant que finalement, la victoire à Manchester United, etc., aidant, est-ce qu'on a besoin de lui et tout. Tout. Manchester United est une équipe moyenne plus en Europe, pas plus que ça. Et face aux très très grands, il vaut mieux avoir ces très très grands joueurs. Et Neymar en est un. Mais ce qu'a fait Mbappé, ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il repousse les limites du possible chaque fois. C'est-à-dire qu'on se disait toujours, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Et puis il le fait. Parce que la difficulté aujourd'hui pour lui, on a vu que sur un côté, il pouvait faire des trous pas possibles. Lui, son rêve, c'est d'être dans l'axe. Et il montre match après match, alors que ce n'était pas toujours le cas.
C'est la deuxième fois qu'il était numéro 9.
Voilà, ce n'est pas toujours le cas.
Au poste de numéro 9.
Puisque Cavani n'est pas là. Et ça n'a pas toujours été le cas. Non, parce que parfois, il a un petit manque de justesse dans le 1 contre 1 et tout. C'est pour ça que l'âge aide quand même. C'est-à-dire que lui, il a beau dire, je ne veux pas qu'on parle de mon âge, évidemment, qu'il ne veut pas. Mais quand il aura 23.
Ça excuse certaines choses.
Bien sûr, quand il aura 23, 24 ans, il se retournera sur son passé et dira, oh, à 20 ans, j'arrive à faire ça. Et dire que je pensais que j'étais au top. Mais en fait, maintenant, j'en fais beaucoup plus.
C'est ça, moi, ce qui m'a frappé dans ce but. À Saint-Etienne, c'est que c'est un vrai but d'avant-centre pur. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment jusqu'à présent si Mbappé, son meilleur poste, c'était sur un côté, si c'était à gauche ou à droite, ou si c'était dans l'axe. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'il s'affirme dans l'axe, parce que c'est à ce poste-là, c'est que vraiment les plus grands joueurs ont laissé leur empreinte. Et finalement, là, il est en train de le faire. Alors, l'absence de Neymar aide quand même indirectement. Évidemment qu'il...
Et de Cavani.
Techniquement, il peut Cavani, faire de grandes choses. Mais là, il a la place nette, entre guillemets, puisque Neymar n'est pas là. Et Cavani non plus.
Mais pas avec Neymar, parce que Neymar, ils ont une très bonne complicité technique l'un avec l'autre, qui fait qu'à un moment, ils vont se refiler des caviars, et puis des buts, ils vont en empiler.
Ouais, mais
avec Cavani, c'est un peu différent, parce qu'il n'a pas la même
justesse. Il n'a pas la complicité.
Non, déjà, il prend sa place,
pied, évidemment. Et je pense que ça, c'est important, et ça peut l'aider vraiment, puisque jusqu'à présent, Mbappé avait toujours été associé à un autre joueur, puisque à Monaco, c'était avec souvent Falcao.
Falcao, oui.
Et au PSG, il a toujours été dans la MCN, mais il n'a jamais été le M tout seul. Et là,
donc,
on est en train de le voir, et M tout seul, ça vous fait penser à quoi? À Messi. Non, mais c'est une boutade, mais c'est-à-dire qu'il est en train de s'affirmer
dans un rôle différent.
Dans un rôle de moteur d'équipe, et là, il est assez bluffant parce que les derniers matchs qu'il avait fait au mois de décembre, novembre-décembre, n'étaient pas extraordinaires.
Mais hier non plus.
Là, il y avait encore Neymar et Cavani. Il fait un match convenable.
Il sauve son match sur ça.
Il sauve son match sur ça. Mais quel sauvetage. Attention.
Mais
il a eu beaucoup de remises un peu incertaines. À un moment, il a deux, trois partenaires sur les côtés. Il les voit.
Il décroche.
Pas.
Il manque de ballon. Il décroche très bas.
Comme beaucoup de joueurs le faisaient, comme Benzema le faisait. Effectivement, parce que il sent le jeu, il est très intelligent. Mais il a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et c'est là où on se pose la question. On se dit, on sait qu'il a beaucoup de progrès à faire. C'est jusqu'où il va aller?
Il faut pas qu'il perde ses qualités, c'est-à-dire vous dites il décroche parce qu'il y a pas de jeu, mais c'est aussi ça prouve qu'il a un énorme volume de course et ça peut l'aider à aller.
Et qu'il a un sens de la responsabilité.
En plus de sa technique et de son talent, il a quand même une endurance et un coffre, ce gamin extraordinaire.
Aujourd'hui, on peut dire que qu'est-ce qui peut le stopper, c'est la blessure. On va se rappeler de Fekir. On n'a jamais retrouvé de Fekir avant sa blessure en équipe de France. C'est vrai, l'explosivité de Fekir, qu'on le veuille ou non, on l'a jamais retrouvé. Donc aujourd'hui, je ne lui souhaite pas du tout. Mais quand on a une grosse blessure, comme a pu le vivre Fekir, pour revenir, c'est très difficile.
Alors, t'as vu, moi, je suis revenu au top.
En 9 semaines.
on en témoigne pas tout à fait autant.
Ouais, pour l'instant,
on pourrait
c'est
pas danser, par exemple.
C'est pour ça qu'il prenait la défense d'un autre blessé, Neymar, en disant
c'est
qu'il pouvait pas
l'oublier
tout à l'heure.
Mais ça peut être très compliqué pour lui, en tout cas.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Alors, du côté des Verts, bon ben, on a bien tenté. Hein, on a aussi beaucoup joué de maladresse, il faut le reconnaître, y compris Stéphane Ruffier,
c'est pas même.
Stéphane Ruffier, coupable pour certains d'une mauvaise relance conduisant au but des Parisiens. En tout cas, c'était incroyable, effectivement, parce qu'après, on a deux têtes avant que ça atterrisse sur Dani Alves, qui fera la passe décisive. Est-ce que c'est la limite, Hervé, selon vous, de cette équipe de Saint-Etienne au budget limité, qui essaye de ruser en reprenant, entre guillemets, des anciens ou des vieux comme Mathieu Debuchy, Yann Mvila, qui font merveille sous le maillot des Verts dans ce contexte, ou même Cazerie, hein, qui était un peu écœuré de voir aussi ce qu'arrive à faire Mbappé et qui n'est pas de leur côté. Est-ce que c'est la limite, finalement, de cette équipe qui est actuellement cinquième?
Ben, le problème des limites, c'est les limites budgétaires, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont à leur niveau, ils font ce qui... Alors, bien sûr, on peut toujours tenter de faire un peu mieux. On se dit, on peut faire du Lille, on peut faire, pourquoi pas, on peut faire du Lyon, mais au-dessus, c'est tout simplement meilleur, et je pense que l'effectif marseillais est aussi supérieur à celui de Saint-Etienne. Donc à un moment, ils se retrouvent plus ou moins à leur place, avec un entraîneur de très bonne qualité, qui connaît très très bien le football, et puis il y a quelques joueurs qu'ils arrivent à relancer, Jean-Louis Gasset, ils arrivent à relancer aussi quelques joueurs, on parlait évidemment de Mvila, qui a vraiment, l'arrivée de Mvila a fait beaucoup beaucoup de bien à cette équipe au milieu de terrain, et puis tous ces joueurs-là, Cazerie, bon, vous savez, on connaissait Cazerie, Rennes rêvait de le garder aussi à une époque.
Cabella qui est resté.
Cabella était en échec à Marseille. C'est-à-dire qu'à un moment, vous récupérez des joueurs.
Et en échec en Angleterre.
Et puis, vous arrivez à créer une mayonnaise. Et ils sont supérieurs à pas mal d'équipes en France, mais inférieurs au gros. Et ça fait que il y a une stat que j'ai lu hier soir. Ils ont perdu leurs 5 matchs contre les 3 premiers du championnat. 5 matchs perdus. Donc à un moment, c'est pas un hasard. C'est qu'il vous manque quelque chose.
Ouais. Et ça fait 10 ans qu'ils ne battent pas le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le PSG version Qatar, quoi. Ça veut dire que ça fait très longtemps. C'est même 10 ans ou depuis 2008, je sais plus, j'avais vu les statistiques, mais en tout cas ça faisait très longtemps.
Non, mais moi je trouve que sur ce match, ils ont plutôt bien défendu, ils ont bien harcelé le PSG. Là, à ce niveau-là, ils étaient présents, ils ont fait un vrai match. Souvent les équipes contre le PSG, elles laissent
filer. Punis sur une erreur.
Et c'est surtout pour moi la faillite un petit peu, enfin faillite est un bien grand mot, mais la faiblesse sur ce match des leaders offensifs, et on les a cités, Cabella et Cazerie, pour moi, n'ont pas été à la hauteur. Sur ce match, on attend un coup de patte, on attend une inspiration de ces joueurs-là, puisqu'on sait que Saint-Etienne, globalement, n'aura pas
trop,
le ballon
trop nerveux, Cazerie,
tout le temps. Quand ils l'avaient, ils l'ont mal utilisé, ils ont fait des bêtises, ils n'étaient pas concentrés sur le jeu, et ça s'est payé. Mais
ce qui manque aujourd'hui à Saint-Etienne, c'est un top player qu'ils n'ont jamais retrouvé, c'est-à-dire l'attaquant qui va être capable de faire la différence, ou ce joueur de génie. Alors Cazerie, par moment, il est capable de le faire sur des frappes face à Marseille ou
Cazerie, c'est le top qu'ils peuvent avoir, faut pas
mais là ils sont au max, je pense, ouais, qu'avec Cazerie ils sont au max,
au max de ce qu'ils peuvent faire eux.
Donc
à moins de créer,
c'est dommage,
son propre joueur, ça peut arriver, c'est-à-dire
oui,
ce qu'il faut, c'est avoir
ils
une
ont
formation.
Plus aussi
voilà ça, ils ont peu de joueurs qui sont très bons qui sortent de leur formation.
Avant oui, mais maintenant c'est aussi ce qui manque peut-être.
Par exemple, Jonathan Bamba qui était là-bas, à un moment il finit sa dernière saison entre les deux titulaires, puis de temps en temps un peu remplaçant,
on va pas beaucoup donner sa chance.
Voilà,
il part
après à Lille et on voit ce qu'il est capable de faire. Alors ce qu'il faut, c'est soit créer son propre joueur et puis après l'avoir 2-3 ans à la Lyon, hein, vous avez à avoir quelques temps, Benzema quelques temps, puis après ils vont ailleurs de toute façon, parce que s'ils sont meilleurs, Ndombele, et puis s'ils sont meilleurs, ils vont ailleurs. Soit prendre effectivement des Ndombele juste dans d'autres petits clubs de Ligue 2, ou alors le gros joueur, mais ça ils n'ont pas l'argent pour.
En tout cas, l'équipe qui est devant Saint-Etienne et qui avance
qui
au classement, c'est qui, Marc Lébrun ?
Je sais pas, vous allez le dire.
Moi, je crois que c'est une équipe qui joue dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée.
Lille.
C'est pas Nice, malheureusement.
Alors, l'OM qui devance Saint-Etienne au nombre de buts seulement pour l'instant. Marseille, quatrième à la fin de la 25e journée. Une équipe phocéenne donc qui, petit à petit, eh bien, fait son nid. Sort d'un hiver cauchemardesque, et finalement, eh bien, le soleil est revenu non seulement sur le Vélodrome, non seulement sur la Canebière, mais aussi grâce à Super Mario Balotelli, qui inscrit des buts et montre une certaine connivence avec les joueurs marseillais. Écoutons l'entraîneur Rudy Garcia.
Non seulement il a fait un enchaînement d'attaquants de classe mondiale, ça on le sait, mais c'est surtout aussi qu'il nous accélère le jeu. Il est capable, par son jeu en une touche, de venir, de participer au jeu, d'orienter le jeu. Il a eu deux occasions, il a mis deux buts. Voilà, donc c'est ce qu'on lui demande. Donc c'est bien, il continue, il est bien. Ça fait 3 buts en 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est bien pour lui et c'est bien pour nous.
Marc Lébrun.
Oui.
3 buts en 4 matchs pour le grand attaquant.
Ouais.
Est-ce qu'il résout tous les problèmes de Marseille, finalement ?
Est-ce que c'est Balotelli ou c'est seulement le système de jeu qui aujourd'hui est passé en système de 4-4-2 avec un Germain qui devient d'un coup très important? Plusieurs fois j'ai dit que quand on achète Germain, on lui vend un attaquant qui va être à ses côtés pour pouvoir l'épauler. Et Germain peut être dans la meilleure disposition pour faire gagner l'équipe. Aujourd'hui, on joue en 4-4-2. Paradoxalement, les cadres de l'équipe, il n'y en a plus. C'est-à-dire les Payet, les Luis Gustavo, les Strott, enfin, tous les joueurs importants sont sur le banc. Et on se rend compte que
blessé,
finalement...
Blessé, hein, notons-le.
Ouais, enfin Payet, il est rentré. Enfin voilà, oui, mais je pense qu'aujourd'hui ce système de 4-4-2 est plutôt intéressant. Balotelli fait pas beaucoup d'efforts, je pense qu'il doit être à 65% aujourd'hui, parce que il a négligé certaines choses à une époque en juillet pour avec Nice pour faire un putsch, et puis là c'est il a refait préparé. En décembre. Mais là aujourd'hui, vu que les joueurs font le taf autour, que ça soit Sanson, que ça soit le petit Lopez, Thauvin. Ces joueurs-là, Thauvin, il est toujours égal à lui-même. Donc à l'arrivée, ça tient la route. Après, son but, c'est un renard des surfaces. Il a pas besoin de conditions physiques. Reçoit un ballon, il sert de son bras gauche, il tourne. Et la tête, c'est pareil. Elle est hors jeu, mais
donc
voilà.
Il contribue quand même à la renaissance marseillaise.
Mais complètement. Mais le système de jeu aussi n'est plus le même. À aucun moment, on avait ce vrai joueur entre guillemets qu'on va mettre devant et qu'on va. Rappelez-vous quand il était à Nice, il avait des joueurs autour qui servaient et qui étaient très importants. Exactement. On se rappelait de Falcao qui adorait jouer avec Germain. Mbappé avait dit, c'est vrai, quand je joue avec Germain, c'est bien parce que je peux profiter de tous ces appels. Et aujourd'hui, on le voit. Donc, c'est un plus. Alors, Garcia a dû changer son système de jeu. Est-ce que, finalement, le grand attaquant qui est arrivé, c'est Balotelli, à partir de là, il va jouer en 4-4-2 tout le temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde en trouve des couleurs.
Patrick?
Non, se pose une question. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Marc. Effectivement, pour moi, c'est la mise dans les meilleures dispositions de Balotelli et de Germain, mutuellement, qui favorisent tout ça. Maintenant, la question, c'est lors du retour de Dimitri Payet, qu'est-ce qu'on va faire de Payet? C'est-à-dire, où peut-on le mettre dans un schéma avec deux attaquants? Est-ce qu'on va le mettre derrière et jouer avec un milieu en losange? Est-ce qu'on a les joueurs pour? Je ne sais pas, mais ce sera une vraie question. Mais mieux vaut avoir le choix que rien du tout, quoi.
Mais moi, j'ai la sensation en plus que rien n'est figé à l'OM. Hein. Là, on est sur du 4-4-2 maintenant, et puis vous serez peut-être sur autre chose. C'est un peu comme à Lyon, on joue à 3 derrière, puis finalement ça marche moins, ben vous tentez autre chose. Parce qu'on se rend bien compte, on n'est pas à Barcelone, on se dit on va jouer toujours comme ça, ou à Manchester City. Mais l'arrivée de Mario Balotelli a été importante pour l'OM, évidemment. Alors lui, c'est le hold-up du siècle, hein. 500 000 euros alors qu'il sortait 6 mois sans jamais avoir rien. Le hold-up du siècle.
Il a marqué 3 buts, il en avait marqué 0 depuis le début de la saison.
Exactement. Alors, il y en a un qui doit avoir mal, c'est Vieira. Quand il doit voir ça, il est complètement fou.
Nice.
Donc c'est bien moqué de moi, effectivement. Parce que c'est vrai qu'il fait des différences. Mais je trouvais que depuis quelques semaines, moi, alors, c'est mon sentiment, que Marseille, il y avait quelque chose. Et ça durait des fois 20, 25 minutes, 30 minutes.
Oui, mais à Saint-Etienne notamment, ils avaient fait un bon match, une bonne première mi-temps.
Tous les matchs. Après, ils ont des hauts et des bas. Parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné ce match-là qu'il n'y a que des hauts. Parce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier une chose qui est très importante, c'est par rapport au match aller. Dans le match aller, l'enchaînement des deux matchs, Dijon, alors je parle pas de Bordeaux parce que c'était un match en retard, mais sinon l'enchaînement Dijon-Amiens, ils l'avaient fait,
ils avaient gagné
les deux matchs. Ça, il faut pas l'oublier. Mais simplement, ce qui est très intéressant pour Marseille, c'est que le fait d'être sur une série de trois matchs comme ça victorieux, logiquement, ça doit donner de la confiance en général. Et cette confiance-là peut vous amener à aller un peu plus loin. Alors c'est pour ça que j'attends vraiment de voir ce que va donner Marseille sur les prochains matchs, voir si c'est juste un feu de paille ou alors on va voir vraiment une continuité dans l'action.
Exactement.
Ce qui est amusant, c'est un des joueurs cadres qui est sur le banc et depuis plusieurs semaines, à savoir Adil Rami, hein, le défenseur central. Hier, il s'est un peu confié au micro de nos confrères de Canal+ dans le canal Football Club, et écoutons-le, il a reconnu Adil Rami qu'après la Coupe du Monde, on s'en souvient quand même, il n'a pas joué une minute puisqu'il est champion du monde, malheureusement il fait partie de ceux qui sont dans le groupe mais qui ne jouent pas, et bien Adil Rami a fait un burn-out.
Voilà, j'ai eu le burn-out.
C'est ça que je veux te dire.
Voilà, j'ai eu le burn-out, exactement. J'en ai discuté, j'ai essayé de trouver des solutions. Je savais que j'étais pas à 100% mentalement et physiquement. C'est-à-dire que même l'odeur de la pelouse, je la sentais même plus. De vouloir taper les attaquants, j'avais même plus envie de les taper. J'étais aigri avec mon entourage, avec les gens qui avaient autour de moi. Et chose que je déteste faire ou montrer. Mais voilà, mais aujourd'hui, je suis content. Je suis content d'avoir été blessé et être aussi longtemps de côté. En partie parce que je me dis que aujourd'hui, enfin, j'ai faim.
Il a faim.
Il a qu'à manger. On a faim.
Mais il est pas perdu pour l'OM.
Non, mais il est pas toujours très lucide aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est.
C'est un showman.
Ouais, moi je l'aime bien. Franchement, je trouve qu'il a une super personnalité.
Non, mais si on l'écoute, c'est justement parce qu'il a un côté amusant. Voilà. Parce que l'histoire du burn-out, un peu débordant.
Je peux vous dire qu'un burn-out, c'est un truc psychologique très violent.
C'est plus dur
très,
que ce qu'il a subi.
C'est beaucoup plus dur que ça, beaucoup plus violent. Et puis là, c'est une dépression. Hein. Ce qu'on veut dire, c'est une dépression. Il n'était pas vraiment en dépression qu'on
c'était
voyait.
C'était plus de la déprime que de la dépression.
Oui, à peine de la déprime. Mais... Simplement, il a trouvé une excuse aussi pour son début de saison catastrophique, qui est liée effectivement à cette Coupe du Monde. Parce qu'après, il y a comme. Vous avez réussi
la décompression.
Une décompression.
Il le disait d'ailleurs, il disait j'ai pas eu assez de vacances, je le dis honnêtement.
Mais alors, ce qui est amusant, c'est que Adil Rami, aujourd'hui, on peut dire qu'il a perdu sa place de titulaire à l'OM. Et celui qu'il remplace et qui commence à faire des bons matchs, Douyek Tsaletatsar, le Croate, lui aussi, c'est un joueur qui était dans les 23 de son équipe, la Croatie à la Coupe du Monde, et qui lui aussi n'a pratiquement pas joué. Et donc, c'est finalement peut-être que la Coupe du Monde a fait du mal à ces joueurs, mais qu'ils sont en train de s'en remettre.
Ah, bah, par Mbappé. Tout le monde a été touché. Lui, c'est différent. Un extraterrestre, ça ne touche pas les extraterrestres.
Il marche sur l'eau, oui, c'est sûr.
Sinon, c'est vrai que beaucoup ont des coups de moins bien.
Modric, hein, commencer par Modric, le ballon d'or.
Non, du côté et la bonne nouvelle, c'est que finalement, s'affirme une charnière jeune, mais plutôt convaincante, Camara Tsaletatsar, alors que le Croate, pendant les six premiers mois, c'était une charrette, hein. C'était très dur. Hein.
Vous êtes beaucoup moqué de lui sur les réseaux sociaux.
Il était très faible, et là, il faut reconnaître qu'il s'est redacté, comme on dit.
Méchant. Parce qu'il faut penser que l'OM, c'est méchant. Très dur, et quand vous arrivez jeune dans un effectif qui tourne pas, c'est très compliqué de sortir la tête de l'eau de l'OM. Ou, le même Tsaletatsar, vous l'auriez mis à Lyon, peut-être que il aurait fait une super saison.
Pour terminer, un petit clin d'œil à un observateur un peu particulier qui était dans les tribunes d'un des stades de Ligue 1 ce week-end, et il s'appelle José Mourinho. Il fut Special One, hein, Special One. Il ne l'est plus vraiment. Et pourtant, eh bien là, on lui a posé des questions. Il parle français. Écoutez ce qu'il pense et comment il regarde la Ligue 1.
Maintenant, c'est le moment pour faire des réflexions, pour penser, pour étudier, voyager, connaître un peu les autres championnats et aussi pour visiter mes amis. Luis Campos, directeur sportif, a travaillé avec moi au Real Madrid. Nous connaissons plusieurs années et c'est facile de venir ici, de regarder le match, la compétition, la Ligue.
La Ligue 1, c'est un championnat que vous connaissez, vous parlez français. Est-ce que c'est un championnat dans lequel vous pourriez vous imaginer entraîner?
Je peux m'imaginer, oui. Je suis un homme qui a travaillé dans 4 pays différents et j'aime ça. Je suis un homme qui aime beaucoup apprendre tout le temps et pour moi, travailler dans un autre championnat sera une expérience fantastique.
Peut-on imaginer José Mourinho en Ligue 1? Marc, je vous vois faire des grimaces là.
Ah bah, il n'y a qu'un club de toute façon. Là, il n'y a pas à rigoler. Il n'y a qu'un seul
qui
club.
Qui pourra le payer?
C'est un appel du pied?
Peut-être deux.
Qui?
Peut-être Monaco et Paris.
Bah non, est-ce qu'ils ont fait avec Jardim? Si c'est par Jardim au mois de juin prochain, on n'est pas bien.
On ne sait pas. Hein.
Disons quoi, le deuxième éventuellement, pourquoi pas Monaco. Mais bon, ce serait quand même surprenant. Non, le seul, c'est le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain l'avait voulu à une époque. Hein. Il l'avait approché, mais ça ne s'était pas fait. Problème de timing.
Après
de
Chelsea.
La même manière que là aujourd'hui, à moins que Tuchel explose.
Tuchel,
pardon, excusez-moi.
Entschuldigung.
Même si il venait, sauf s'il venait totalement exploser, imaginons des défaites jusqu'à la fin de saison en championnat, un match retour perdu 3-0 ou une élimination en quart contre la Roma ou je sais pas trop.
C'est possible.
Bon, là il y a possibilité. Ah, ouais. Et là dans ces cas-là, Mourinho, pourquoi pas.
On peut avoir la vision optimiste, c'est-à-dire que Tuchel gagne. On sait pas, la Ligue des Champions avec
et
le PSG.
Il
s'en va en pleine gloire en reprenant l'équipe nationale allemande.
Patrick va très mal, c'est un peu. Ah oui, bah Patrick, ça va mal.
Non, c'était du foot fiction, là.
Ah oui, j'ai pas vu depuis longtemps, mais je comprends.
Du foot fiction, vous l'imaginez, José Mourinho, à la tête d'un club de Ligue 1.
Ça paraît difficile. Après, en
son
Espagne,
style de jeu, ça s'adapterait peut-être pas.
En Espagne, on a fait le tour. En Angleterre, je pense qu'on a fait le tour aussi du personnage. Peut-être qu'aujourd'hui, il se dit, peut-être.
En France, on n'a pas fait le tour.
En France, on espère toujours à se dire peut-être qu'il y a quelque chose à gratter. Mais en tout cas, il est en opération com gigantesque. Il vient.
Exactement.
On le montre, il descend. Il est magnifique.
Et en même temps, ça serait compliqué si on le renvoyait en milieu d'année de payer ses annuités de fin de contrat.
Monaco a bien payé. 10 millions pour un coach, ils l'ont récupéré. Donc,
c'est pour ça que j'ai cité Monaco.
Deux clubs, donc, uniquement pour accueillir.
Ça paraît difficile ailleurs.
Il lui faudra un autre effectif, quand même, à Monaco. C'est-à-dire qu'il faudrait racheter des joueurs.
Tout est possible si un coach fait des sacrifices financiers, mais on ne le voit pas les faire en France. On le voit peut-être les faire au Portugal pour être sélectionneur, mais pas en France.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International. N'oubliez pas, demain, RFI retransmettra le match entre Lyon et Barcelone en direct de Lyon avec Olivier Pron et Christophe Diremzian. Mais bien sûr, nous vous en parlerons demain dans Radio Foot de ce match de Ligue des Champions. Merci à tous. Merci aussi à David Finzel et à Laurent Salerno qui est revenu aujourd'hui.